avec Jean-Luc Masbou à l'occasion du Festival Angoulême à propos du 9e tome de De Cap et De Croc. Bonjour.
Bonjour.
Alors, voici presque la fin de De Cap et De Croc. On est à un tome du retour sur Terre, on va dire. Peut-être.
Le tome 10, oui, le tome 10 va clore en fait normalement, hein, si tout se passe comme prévu, parce que je connais Alain, quand il commence à fourmiller d'idées, généralement, il rajoute des tomes, c'est pour ça que De Cap et De Croc va faire 10 tomes au lieu d'en faire 3 à la base. Hein. Mais normalement, ouais, le 10e tome devrait terminer les aventures du loup, du renard et du lapin, et ensuite on devrait embrayer sur 2 autres tomes pour raconter juste l'histoire du lapin, faire une préquelle, pour finir par raconter cette fameuse aventure du lapin dans les guerres du cardinal, celle qu'il n'arrive jamais finalement à raconter, parce que tout le monde le coupe et l'empêche de finir son histoire.
Vous vous occuperez aussi du dessin sur cette préquelle ?
Ouais. En fait, au début, c'était une idée d'Alain. Il avait l'intention de... Enfin, il est dessinateur aussi, mais bon, de fil en aiguille, finalement, il s'est retrouvé scénariste sur deux séries, sur Garulfo et puis sur De Cap et De Croc. Bah, il rêve toujours de devenir aussi dessinateur. Et donc, parmi ses nombreux projets, il y avait l'aventure du lapin en tant que garde du cardinal. Mais j'ai insisté quand j'ai su que c'était lui qui voulait la dessiner. J'ai dit non, dessinateur de De Cap et De Croc, c'est moi. Donc, toi, tu dessines autre chose, ce que tu veux. Donc, il travaille sur autre chose, mais depuis longtemps. Et donc, oui, c'est moi qui dessinerai ça.
Qu'est-ce qui est le plus agréable à dessiner ? Alors, Euseb, le loup, le renard ?
Tout est agréable à dessiner. En fait, le gros plaisir qu'on a dans De Cap et De Croc, c'est de jamais dessiner deux fois ou le même endroit, ou pratiquement. Mais si on dessine deux fois le même endroit, de toute façon, au niveau de la couleur, je me débrouille toujours pour que les ambiances soient un petit peu différentes. Et en fait, c'est ça le gros avantage, c'est qu'en fait, moi, je me lasse jamais. Parce que de la Terre, déjà, on a visité quand même pas mal d'endroits. Il n'y a jamais 10 pages qui se passent vraiment au même endroit. Donc on mouche tout le temps, on est parti sur la Lune. Alors là, c'était le rêve total. Donc généralement, quand on commence un album, Alain me dit « Est-ce que t'as envie de dessiner un truc précis ? Est-ce que t'as envie de te faire plaisir ?» Donc là, oui. J'avais envie de dessiner une éclipse de soleil par la Terre. Donc dans le prochain album, il y aura un moment fantastique avec une éclipse de soleil par la Terre. Non, j'en dis pas plus.
Il y a beaucoup de décors aussi. On a pu voir l'année dernière une exposition où il y avait des planches originales. Et c'est important, vous attachez une importance toute spéciale justement à l'arrière-plan et pas simplement au personnage.
De Cap et De Croc, déjà au niveau du scénario, c'est excessivement... ça fourmille de tas d'idées, de tas de choses. Donc du coup, au niveau du dessin, ça peut pas faire autrement. Quoi. Enfin, c'est même pas une question de choix, c'est on le fait comme ça. Moi déjà, j'étais... J'adorais quand j'étais au Beaux-Arts faire des illustrations excessivement fournies avec des tas de trucs cachés dans les coins histoire de faire voyager le lecteur, enfin du moins le spectateur dans l'image et de lui raconter plusieurs histoires. Et là en fait ça continue quoi, on met des petites références, les gens, il y a une double lecture, une deuxième, une troisième, il y a même des gens qui après l'avoir lu 10 fois redécouvrent encore des trucs qu'ils n'ont pas découverts au niveau des références purement littéraires que rajoute Alain. Ou des références au cinéma, au Monty Python, des tas de choses comme ça, des trucs cachés. Donc au niveau du dessin, c'est pareil quoi. On s'amuse aussi à planquer des choses. On le fait tous les deux volontairement, enfin du moins on en discute. Puis des fois je fais des trucs tout seul et puis après je le dis à Alain, tiens, j'ai planqué ça dans un coin. Donc du coup on s'amuse nous aussi à essayer de découvrir des petits trucs. C'est toujours un plaisir quand Alain me donne les découpages. J'essaie de voir ce qu'il a voulu mettre. Donc ça demande toujours des tas d'explications. Je dis c'est quoi ça? C'est une référence à quoi? Donc on est toujours en train de se documenter énormément et de lire des tas de bouquins. Et c'est un puits de science. Hein. Donc du coup moi ça me permet aussi de découvrir des tas de choses. Et puis bon c'est un jeu qu'on a entre nous. Et c'est très rigolo donc. Du coup, on essaie aussi de faire participer les gens à ça, et c'est marrant. Sur les forums, on voit qu'il y a du retour, et que les gens apprécient aussi ce genre de choses. Ouais, c'est très rigolo, quoi.
Vous travaillez de la même façon, maintenant, que sur la première bande dessinée ?
Ouais, c'est-à-dire de la même façon. Techniquement, oui, et puis... oui, généralement, Alain me lit le scénario du premier tome, hein. Une première fois, ensuite il le change, on en discute. Généralement il s'arrête à la troisième mouture, puis après il fait les découpages page par page en les dessinant. Mais là ça change parce qu'il rajoute encore des idées qu'il n'avait pas dans le scénario. Donc c'est pour ça que généralement le scénario par exemple du tome 1 ne s'est pas fini comme on le voulait. Donc la fin du tome 1 a été dans le tome 2 et ainsi de suite. Donc du coup c'est pour ça que de 3 tomes on en est à 10. C'est parce qu'au fur et à mesure on rajoute des trucs. Puis après oui je passe à l'exécution, au crayonné, je lui fais corriger. Et une fois que le crayonné est corrigé, je passe à la couleur et voilà quoi. Mais on en rediscute tout le temps et en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est jamais lui de son côté, ensuite moi du mien, c'est toujours un gros mélange entre les idées que je lui apporte, lui ce qu'il a envie d'y voir, les corrections qu'il fait. Là il m'a envoyé les premières pages du tome 10. J'ai reçu un jour la première page. Ensuite, 2 jours plus tard, j'ai reçu la deuxième mouture de la première page, puis la première mouture de la page 2 et 3. Trois jours plus tard, j'ai reçu la troisième mouture de la page 1, et la deuxième mouture des pages 2 et 3, et la première mouture, et ainsi de suite. Il a fallu que j'attende 15 jours pour avoir les 7 pages terminées qui en sont à leur quatrième et dernière mouture. Donc là, c'est toujours une remise en question. À chaque fois, moi, je lui dis un truc, hop, ça lui refait faire les pages. Il n'est pas feignant de ce côté-là. Il essaie d'aller vraiment à la perfection. Je crois que ça marche quand même pas mal, parce que les retours des lecteurs qu'on a là sont toujours très contents, justement, d'avoir des trucs qui soient très carrés, où rien n'est laissé au hasard, en fait. Donc oui, on bosse exactement comme avant. Ça fait 14 ans qu'on est sur la série, et le plaisir est toujours là, et la rigueur aussi. Aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. De toute façon, je m'envoie des fleurs, mais bon, je suis là pour ça, allez.
Est-ce qu'il vous arrive d'agir en fonction de ce que vous a demandé le public, en fait? Vous parliez beaucoup du retour de lecteurs sur les forums ou autres. Est-ce que vous avez des fois introduit un élément dans un des albums suite à des remarques qu'on vous a fait en tant que lecteur?
Non, la seule fois, c'est un lecteur avec lequel j'ai discuté de la suite, c'était le tome 8. Je venais de finir le tome 7, j'avais commencé le tome 8, j'allais dessiner le maître d'armes, et je savais pas du tout de quelle couleur le faire, avec Alain on savait pas du tout. Voilà. Et en fait, le lecteur m'a dit, il est si vis dans les nuages, ça serait normal de le faire blanc, ça ferait le chevalier blanc. Et du coup, c'est la seule idée qu'on a gardée, et qui finalement était très très bonne. Mais le résultat, non, parce que sur les forums, les gens aiment bien commenter ce qu'ils viennent de lire, en imaginant qui est la fille du Raïs Kader, qui est tel personnage, qui peut être le maître d'armes, et on a eu des trucs les plus fous. Et finalement, non, on n'en tient pas compte. Parce que du coup, ça serait, très légèrement, inconsciemment, mais non, ça serait ou aller trop dans le sens des lecteurs, ou aller trop à l'opposé, du moins, pour essayer de les surprendre, et ça faut pas. Faut pas essayer de se dire, ils ont prévu ça, donc on va pas le faire. Il y a des trucs qu'on a prévu de faire, il y a des personnages, on sait qui c'est, ou des surprises qu'on garde pour la fin. Celles-là, elles ont jamais changé. On sait qui est tel personnage, dont on ignore pour le moment l'identité, mais par contre... Voilà, on n'essaie pas d'aller forcément à l'inverse de ce que les lecteurs pensent. Et si jamais tous les lecteurs se sont concertés pour décider que ça devait se terminer comme ça et que ça serait logique, non, on s'en fout. Par exemple, normalement, je ne sais plus en combien de tomes, une pièce, c'est en trois actes, donc les gens avaient prévu que ça soit en trois, je ne sais plus exactement, mais ça, on n'en a pas tenu compte du tout. On y a réfléchi avec elle, on s'est dit oui, ça serait logique, mais au bout d'un moment, on s'est dit on s'en fout. Le but du jeu, c'est de nous faire plaisir. Donc même si ça dure 10, 12, 14 tomes, tant qu'on a des idées, qu'on les met, que les gens sont toujours là, toujours au rendez-vous et qu'on les embête pas, donc non, on tient pas compte de ce qu'ils nous disent. Mais par contre, ça nous fait bien rire. Ouais.
Et au niveau des dédicaces, il y a des demandes particulières qui se font. C'est plus un personnage qu'un autre qui revient.
Non, pas non. Il y a des personnages, genre les pirates, que je dessine pas assez souvent. C'est rigolo, ça. Par contre, on me demande assez souvent de dessiner le poulpe. C'est idiot, hein, mais en plus c'est super chiant. Ça a 8 bras, ça a 100 ventouses à chaque bras, donc c'est vachement long. Donc déjà, quand on me dit est-ce que je pourrais avoir le poulpe, je dis non. non, je vois autre chose. Mais non, celui qui est le plus rigolo à faire, c'est Euseb, parce qu'on peut le mettre en scène, donc généralement on me le demande. On me l'a demandé en drag queen des fois. Oui, je dessine un bassiste de Kiss aussi. Et des trucs assez étonnants, on fait les mélanges comme ça. Alain arrive assez bien à le mettre en scène aussi, parce qu'Alain dessine, et quand il dédicace avec moi, généralement il demande aux gens quel est leur film préféré. Donc si jamais le mec balance Pulp Fiction, voilà, on se retrouve avec Zeb en latex sortant d'une cave ou un Bruce Willis plein de sang. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qu'on aime bien faire, quoi.
Et vous, votre personnage, celui que vous préférez dessiner?
Ah ben là, j'en ai pas. C'est vrai que le lapin il est super rigolo à mettre en scène, mais franchement j'aime autant dessiner le renard, le loup ou les pirates. Non, ce qui est rigolo, c'est de faire des trognes, en fait. De s'amuser à faire ou les méchants ou même les bonhommes en arrière-plan, ceux qu'on verra une seule fois. Non, il n'y a pas de... Alors là, il n'y a pas de personnages chiants à dessiner. Même les mimes, ils sont tous calibrés pareil, mais même ils sont super rigolos à faire, quoi. On a toujours des attitudes totalement absurdes. Donc non, il n'y a pas de... J'ai pas de personnage préféré, non. Par contre, ça va m'embêter de les quitter, ça. Je prévois une grosse dépression nerveuse à la fin du tome 10, quand je saurai que le loup et le renard, je risque de plus jamais les dessiner de toute ma vie, quoi. Mais bon, je vais être... Je sais que le lapin, encore, ça va durer deux tomes, et qu'il va y avoir des nouveaux personnages qui vont arriver, donc ça, c'est bon.
Une bande originale pour Deux Capes et Deux Crocs?
Alors là, j'ai des gens qui m'ont déjà montré ce qu'ils étaient capables de faire et qui écoutaient des musiques de films, genre L'île aux pirates, hein, qui va très bien d'ailleurs, L'île aux pirates va très bien avec. Donc voilà, je vais dire L'île aux pirates. Voilà, il y a quelqu'un qui lisait systématiquement, qui s'était fait une cassette comme ça, avec des numéros calibrés et qui, au fur et à mesure des pages, les lisait alors doucement ou plus vite en fonction de la longueur des morceaux, mais s'était fait une bande originale pour... Ouais, hein. Il y en a. Oui, il y a des acharnés, oui. Mais c'est pas mon cas. Quand je le lis, non, moi je préfère faire fonctionner mon petit boulot et mettre la musique ou les sons que je veux par-dessus.
Et vous travaillez en musique par contre ?
Je travaille pas souvent en musique, je travaille surtout avec genre un film qui tourne. Hein. Bah, mais pas forcément ça, je suis un grand fan de Star Wars ou je sais pas, Conan le Barbare, je peux très bien mettre un film qui a rien à voir avec. Tant que je lis qui tourne autour, ça ne m'empêche pas de dessiner. Pas si je suis scénariste, si je suis scénariste je peux pas trop faire ça. Parce que je suis aussi scénariste, donc là c'est notre gymnastique, on fait des phrases dans sa tête, donc si à côté on a quelqu'un qui parle, c'est généralement c'est assez gênant quoi. Mais quand on dessine, non, on se met en pilote automatique, branché sur l'imaginaire, et puis voilà quoi. Au contraire, moi j'ai beaucoup de références visuelles cinématographiques pour faire mes couleurs. Je suis assez souvent en train de regarder des films ou de re-regarder des films, juste histoire de pouvoir continuer à faire fonctionner le côté visuel. Voilà, comme pour travailler des couleurs, travailler des éclairages. J'aime bien faire des contre-éclairages sur les personnages, sur certaines scènes, mettre un spot rouge à un endroit, un spot bleu à un autre. Quoi. En fait, je fonctionne comme un éclairagiste et puis comme un directeur de la photo. Puis je suis toujours en train de regarder surtout autour de moi. Quoi. Les couchers de soleil, les ciels, la nature, les changements de saison et ce genre de choses. C'est une gymnastique aussi que j'ai. Parce que le principal pied que je prends sur Decapé le Croc, quand je fais de l'illustration ou du dessin, c'est de faire la couleur, la mise en couleur. Parce que j'aime bien que les... être assez rigoureux de ce côté-là, même si des fois, quand ça se passe sur la Lune, au niveau des couleurs, c'est du gros n'importe quoi. Mais au moins, il faut avoir une attache avec la réalité pour que le lecteur, quand il rentre dans votre univers, il n'ait pas de mal. Il ait les mêmes références que vous. Il sait que ce coucher de soleil, il l'a déjà vu. Cette ambiance, c'est une ambiance de plage au bord de Dunkerque. Donc du coup, on sent le froid, la pluie, le crachin, ce genre de choses. Ou le cri des mouettes quand on voit la couleur de la mer et la fond des vagues. Donc ça, tout de suite, ça c'est un truc sur lequel j'aime bien travailler, quoi. Et c'est une gymnastique de tous les jours. Moi, je suis toujours émerveillé par la couleur du ciel, par le petit matin, le soir, la nuit, voilà.
Vous travaillez aussi beaucoup sur les animaux, du coup, pour pouvoir dessiner ces personnages ou pas du tout ?
Bah, plus tellement, je suis un peu habitué. J'ai, voilà, à part le loup, le renard, le lapin, un cochon. J'ai pas travaillé sur une cigogne ici. J'ai pas travaillé sur grand chose. Puis j'ai pas franchement travaillé. Non, celui qui m'a le plus embêté, limite, c'était l'albatros dans le tome 2. Mais après, non, les autres, une fois qu'on les tient, ils ont vachement évolué. Quand je regarde le premier tome de Decapé le Croc et le dernier, si vous regardez le lapin et le renard, ils ont énormément évolué. Hein. Ils ont perdu une oreille, ils ont gagné un ventre, ils ont perdu un museau. Non, c'est assez marrant, ça.
Donc, pas de spin-off avec un poulpe.
Non. Un poulpe garde du cardinal. Ça pourrait être drôle, mais non. Non, non, c'est trop chiant à dessiner. J'insiste.
On a une question pour finir, qui est plus personnelle. Est-ce que vous préféreriez avoir le don d'ubiquité ou la vie éternelle ?
Alors, la vie éternelle, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est non, pas la vie éternelle, parce que du coup, non. J'en discutais avec ma copine et je lui ai dit que non, la vie éternelle, ça ne m'intéressait pas, parce que jusqu'où ? À partir du moment où on a la vie éternelle, on n'est plus pressé. Et ce qui fait qu'on est créatif, c'est qu'on est pressé parce qu'il y a la mort au bout et qu'on, du coup, on se dit, waouh, wow, faut se dépêcher quand même. À partir du moment où on est immortel, on glande. Donc, don d'ubiquité, oui, plutôt. À la limite, ce serait plutôt ça.
Un mot sur l'ambiance du festival ?
Alors, le festival, ouais, ça fait 25 ans que je le fais, le festival. J'habite sur Angoulême, donc du coup, j'ai un petit peu l'habitude. Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien le festival. Il y en a qui n'aiment pas trop. Ben, j'aime tous les festivals, les petits, sympas, où on nous accueille de façon chaleureuse. Et puis là, c'est la grosse usine, ça bouge dans tous les sens, il y a des tas de trucs à voir. Ça, j'aime bien. Alors, juste un petit mot, s'il y a ceux qui pourront m'entendre, hein, mais de là où vous émettez, à mon avis, oui, voilà, mais. Alors, quoique oui, parce que je suis président de la DABD. C'est un groupement d'auteurs à titre informatif. Et donc, du coup, on se bat avec le festival depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, pour avoir une salle des auteurs. Une salle où les auteurs peuvent se rencontrer et se retrouver. Parce que comme c'est un festival d'éditeurs, on se retrouve entre auteurs de la même maison d'édition, mais on a beaucoup de mal, sauf genre le soir à l'hôtel Mercure, de rencontrer d'autres auteurs. Pour parler boulot, pour se reposer, boire un coup, et puis à la limite même se faire interviewer, comme ce que vous faites là, on a besoin d'une salle des auteurs sur le Festival d'Angoulême. Parce que justement, c'est devenu une trop grosse usine, le Festival d'Angoulême. Ça a perdu le côté rigolo et chaleureux que ça avait au début. Même il y a 25 ans, les premières fois où je le faisais, c'était un peu plus petit. C'était plus convivial, c'était plus rigolo, même au niveau des exposants. Il y avait un côté plus fun, quoi. Là, c'est vraiment la grosse usine, il y a plein de monde, ça court dans tous les sens. Au bout de 4 jours, on est canés, quoi. Donc voilà, un peu plus d'humanité, un peu plus de chaleur, un peu plus d'accueil, voilà, de ce côté-là.
Et un mot pour conclure ?
Lisez Decapé le Croc, c'est super chouette, c'est la meilleure BD du monde. Moi, je remercie tous les gens qui lisent Decapé le Croc et qui, en retour, viennent me voir en dédicace ou sur les forums internet, discutent de tout ça, en fait. C'est ça le gros plaisir, c'est de pouvoir donner du plaisir aux gens, partager des histoires. et puis rendre le monde un peu meilleur pendant au moins 10 minutes, même si après il redevient pourri, mais au moins il y a eu 10 minutes de calme. J'ai pas l'ambition de changer le monde, mais au moins si je peux bien faire marrer les gens et les faire rêver pendant le temps où je suis vivant et où je peux mettre des couleurs sur le papier, ça sera pas mal. Et puis les gens le rendent bien, donc c'est l'amitié partagée. C'est chouette. Donc merci à tous les lecteurs. Merci.